Vidocq, Mémoire, chapitre 32. Gaffre et Goupil ayant échoué dans leur manœuvre pour me compromettre, Corvet voulut à son tour essayer si je ne succomberais pas. Un matin, ayant besoin de me procurer divers renseignements, je me rendis chez cet homme dont la femme était aussi attachée à la police. Je trouvai les deux époux dans leur logement. Je vois que je ne les connusse que pour en avoir copié avec quelques découvertes de peu d'importance. Ils mirent tant de bonne grâce à me donner des renseignements que je demandai quand un homme qui a le savoir-vivre de gens avec lesquels il se trouve en rapport, je leur fis l'offre de les régaler d'une bouteille de vin au plus prochain cabaret. Corvel seul accepta, et nous allâmes ensemble nous installer dans un cabinet particulier. Le vin était excellent. Nous en bûmes une bouteille, puis deux, puis trois. Un cabinet particulier et trois bouteilles de vin, il n'en faut pas autant pour disposer à la confiance. Et depuis une demi-heure environ, je croyais m'apercevoir que Corvet avait quelle couverture à me faire. Enfin, étant un peu lancé, « Écoute, Vidocq, me dit-il en posant bruyamment un verre sur la table, tu es bon enfant, mais t'es pas franc avec tes amis. Nous savons bien que tu travailles, mais t'es une fine source, indissimulée. Sans ça, nous pourrions faire de bonnes affaires. » J'eus d'abord l'air de ne pas comprendre. « Tiens, reprit-il, t'as beau battre, on ne m'en compte pas, moi. Je n'ai pas vu de ton urine, mais je sais de quoi tu y tournes. Je vais te parler comme si t'étais mon frère. Après ça, je pense que tu n'auras plus de détour. C'est bon de servir la police, c'est juste. Mais aussi, on gagne pas diable. Un petit écu n'est pas aussitôt mangé que c'est rien du tout. Vois-tu, si tu veux être discret, il y a deux ou trois affaires que je reluque. Nous les ferons ensemble. Ça ne nous empêchera pas après d'enfoncer les amis. Comment, lui dis-je, tu veux abuser de la confiance que l'on a en toi? Ce n'est pas brave. Et je te jure que si on le savait à la boutique, on ne se gênerait pas pour t'envoyer passer deux ou trois ans à Bicêtre. Oh, te voilà comme les autres, reprit Corvet. Ça va-t-il pas bien de faire le délicat? T'es délicat, toi. Laisse donc. On te connaît pas, peut-être. Je lui témoignais mon étonnement de ce qui me tenait un pareil langage, et j'ajoutais que j'étais bien persuadé qui n'avait que l'intention de m'éprouver, ou peut-être de tendre un piège. « Un piège ? » s'écria-t-il, « un piège ? Moi, vouloir te faire de la peine. Peut-être peine à Vidocq, jugeais-je. Faut être bien misère, bien nigo, pour supposer. Je vais pas par quatre chemins. Quand je te dis quelque chose, c'est que c'est ça. Avec moi, il n'y a pas de honte derrière. Et la preuve, c'est, pas comme tu le crois, c'est que je vais te confier que pas plus tard qu'à ce soir, je fais un Chopin. Oh, j'ai déjà préparé tout mon Bataclan, les fausses clés ont été essayées. Si tu veux venir avec moi, tu verras comme je m'arrange. Je m'en doute. Ou tu as perdu la tête, ou tu ne serais pas fâché de m'entortiller. Allons donc, est-ce que j'aurais assez pu de sentiments pour ça? Et haussant la voix, puisque je te dis que tu mettras pas la main à la pâte, que vaut-il donc de plus? Je ferai l'affaire avec ma femme, c'est pas la première fois que je l'emmène. Il ne tient qu'à toi, que ce soit la dernière. À deux hommes, il n'y a toujours pas plus de ressources. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, ça ne te regarde pas. Tu nous attendras dans le café au coin de la rue de la Traiterie. C'est presque en face de la maison où nous sommes à Grinchière. Et si donc nous verra sortir, il nous suivra. Nous irons vendre les objets et tu auras ta part. Après, tu seras maître de ne pas te méfier de nous. C'est ici à parler. Il y avait une telle apparence de sincérité dans ce discours que véritablement je ne savais plus à quoi m'en tenir sur le compte de Corvet. Cherchait-il un associé ou se proposait-il de me perdre? Je n'ai encore que des doutes à cet égard, mais dans un cas comme dans l'autre, il m'était manifeste que Corvet était un coquin. De son propre aveu, sa femme et lui commettaient des délits. S'il avait dit le vrai, il était de mon devoir de faire en sorte de le livrer à la police, justice. Mais si au contraire il avait menti dans le seul espoir de m'entraîner à une action criminelle pour me dénoncer, il était bon de pousser l'intrigue vers son dénouement afin de montrer à l'autorité qu'à vouloir me tenter, c'était perdre son temps. J'avais essayé de détourner Corvet du dessein dont il m'entretenait. Lorsque je vis qu'il persistait, je feignis de m'être laissé séduire. « Allons, lui dis-je, puisque c'est un parti pris, j'accepte ton offre. » Alors il m'embrasse et rendez-vous est donné pour 4 heures chez un marchand de vin. Corvet retourna chez lui et dès qu'il m'eut quitté, j'écrivis à M. Allemin, commissaire de police au du cimetière Saint-Nicolas, pour l'informer du vol qui devait se commettre dans la soirée. Je lui donnai en même temps toutes les instructions qui étaient nécessaires pour parvenir à saisir les coupables en flagrant délit. À l'heure convenue, j'étais au poste. Corvet et sa femme ne tardèrent pas à venir. Je consommai avec eux le demi-sautier de rigueur, et quand ils eurent pris cet encouragement, ils s'acheminèrent vers la besogne. Un instant après, je les vis entrer dans une allée de la rue de l'Aumônerie. Le commissaire avait bien pris ses mesures, qui arrêta les deux époux au moment où, chargés de butin, ils sortaient de la chambre qu'ils avaient dévalisée. Ce couple, si intéressant, fut condamné à 10 ans de fer. Pendant les débats, Corvet et sa compagne, digne, prétendirent que j'avais joué auprès d'eux le rôle de provocateur. Certainement, dans la conduite que j'avais tenue, il n'y avait pas l'ombre de ce qui eût pu caractériser la provocation. D'ailleurs, en matière de vol, je ne pense pas qu'il y ait provocation possible. Un homme est honnête ou il ne l'est pas. Et s'il est honnête, aucune contestation ne sera assez puissante pour déterminer à commettre un crime. Et s'il ne l'est pas, il ne lui manque qu'une occasion. N'est-il pas évident qu'elle s'offrira tôt ou tard? Et si cette occasion fait une victime, le voleur ne peut pas devenir assassin? Sans doute, celui qui travaillerait à démoraliser un être faible et à inculquer les principes pernicieux pour ménager l'atroce plaisir de le livrer ensuite au bourreau serait le plus infâme des scélérats. Mais quand un individu est perverti, quand il s'est déclaré en état d'hostilité contre ses semblables, l'attirer dans un piège, l'allécher par la proie qu'il convie, mais qu'il ne pourra pas saisir, lui donner un flairer l'appât auquel il se doit prendre, n'est-ce pas rendre un véritable service à la société? Ce n'est pas la brebis que l'on montre au loup qui crée son instinct des prédateurs. Il en est de même du penchant au vol. Il est préexistant à l'action, et l'action s'accomplira infailliblement, car dans un temps ou dans l'autre, le voleur sera porté à de l'accomplir. Ce qui est important, c'est qu'il entreprenne de nuire dans des conditions telles qu'il y ait commencement d'exécution sans préjudice pour personne. Ainsi, le fait est contracté et la société, par un attentat surveillé, est préservée d'une foule d'attentats dont l'auteur, longtemps ignoré, aurait peut-être joui d'une impunité fatale. En définitive, on ne me persuadera jamais que ce soit un mal de jeter à la vipère le lambeau d'étoffe sur lequel elle doit épuiser son venin. Dans une grande ville comme Paris, il ne manque pas de cœurs gangrenés, d'âmes profondément criminelles. Mais chacun des brigands que renferme cette cité n'a pas sur le front un signe patibulaire. Il en est assez adroit pour fournir une longue carrière de crimes avant d'être découvert. Ceux-là sont coupables. Il ne s'agit plus que de les atteindre et de les convaincre, c'est-à-dire de leur prendre la main dans le sac. Bien, lorsque des individus de cette espèce m'étaient signalés, soit parce que leurs allures les rendaient suspects, soit parce qu'ils menaient joyeuse vie sans qu'on leur connût les moyens d'existence, pour couper court à leurs exploits, c'est moi qui leur tendais le sac. Et je l'avoue, sans honte, je ne m'en faisais pas scrupule. Les voleurs sont des gens dont la nature est de s'approprier le bien d'autrui, à peu près comme les loups sont des animaux voraces dont la nature est de s'attaquer aux troupeaux. On ne peut guère confondre les loups avec les agneaux, mais s'il est possible que les uns fussent cachés dans la peau des autres, un berger, quand il aurait été démontré que des coups de dents ont été donnés, serait-il blâmable, pour éviter les atteintes futures, de tenter la voracité de tous ceux qu'il suppose capables de mordre? On peut y compter. Celui qui mord n'est jamais celui qui est enclin à mordre. Si Corvet et sa femme ont volé, c'est que déjà, de fait ou d'intention, ils étaient voleurs. D'un autre côté, je ne les ai point provoqués, j'ai tout simplement adhéré à leurs propositions. On m'objectera qu'en les menaçant, je pouvais les empêcher de commettre le vol qu'ils avaient prémédité. Mais les menacer, ce n'était pas les corriger. Aujourd'hui, ils se seraient abstenus, et demain, ils auraient levé un nouveau lièvre. Et certes, pour le tirer, ils ne m'auraient pas fait appeler. Qu'en advenait-il? Que la responsabilité morale du délit dont ils se seraient rendus coupables passe sur moi avec toutes les conséquences. Et puis, si Corvet avait reçu la mission de m'impliquer dans une mauvaise affaire sous la promesse d'être revendiqué par le préfet de police, après l'événement, le soin de ma sûreté personnelle ne me prescrivait-il pas de prendre mes précautions de manière à dégoûter des trames de ces espèces et ceux qui les traversaient et ceux qui s'en rendraient les agents? C'est là, du moins, le résultat que j'obtenais en dénonçant Corvet au commissaire du quartier où il devait opérer, au lieu de le dénoncer à la préfecture. En suivant cette marche, j'étais assuré que s'il avait été mis en avant, on le désavouerait et que la justice aurait son cours. Si j'ai insisté sur le fait de la provocation dans cette affaire, c'est que c'était là le grand moyen de défense de la plupart des accusés que j'avais fait prendre en flagrant délit. On verra, dans le chapitre suivant, que l'idée de recourir à une si pitoyable excuse leur fut souvent suggérée par les ennemis. Le récit d'un complot ourdi par 4 des agents de mes brigades, dénommés Utilin, Chrétien, De Costard et Coco Lacour, montrera à quoi se réduisent les imputations les plus fortes dirigées contre moi. Je ne répéterai pas ici ce que j'ai dit ailleurs sur la provocation à des attentats politiques. Le mécontentement, légitime ou non, l'exaltation, l'exaspération, le fanatisme même, ne constituent pas un état de perversité, mais peuvent produire une sorte d'aveuglement momentané sous l'influence duquel l'homme le plus probe, le citoyen le plus vertueux, sera facilement égaré. Des raisonnements captieux, des combinaisons perfides, une intrigue dont il n'aperçoit pas les fins, peuvent le conduire dans l'abîme. Satan vient et le transporte sur la montagne d'où il lui fait découvrir le royaume de Dater. Il lui montre tout un arsenal de chimères, des armées, des canons, des soldats, les peuples prêts à se soulever contre l'oppression. Il le séduit par des impossibilités, et par des impossibilités, il le salue du titre de libérateur. Et le malheureux, dont l'imagination marche rêveuse dans des espaces imaginaires, croit en enfin retrouver un point d'appui et un levier pour remuer le monde. Poussé par la plus exécrable des démons, il ose prononcer son rêve. L'enfer a des témoins, ses pages, et le délire se termine au pied de l'échafaud. Telle est, en peu de mots, l'histoire des patriotes de 1816, sollicités par l'infâme Chiquine. Mais revenons à la brigade de sûreté. Après la formation de cette brigade, les officiers de paix et leurs agents, qui m'en voulaient déjà beaucoup, crièrent à l'abomination, et ce furent eux qui semèrent sur mon compte les bruits les plus absurdes. Ils imaginèrent le surnom de Bandavidoc, qui fut appliqué au personnel de police de sûreté. Ils publièrent que ce personnel n'était composé que de forçats libérés ou d'anciens filous habiles à faire la bourse et la montre. « Peut-on, disait-il, permettre à un pareil homme de s'entourer de la sorte? N'est-ce pas mettre à la discrétion la vie et l'argent des citoyens ?» Et d'autres fois, il me contait au vieux de la montagne. Il me comparait. Quand il voudra, il nous égorgera tous, prétendait le respectable monsieur Ivy. N'a-t-il pas ses séides? C'est une infamie. Dans quel temps vivons-nous? Poursuivait-il. Il n'y a plus de morale, pas même à la police. Le bonhomme, avec sa morale. Au surplus, ce n'était pas là ce qui l'inquiétait. Messieurs les officiers de paix, vous aurez volontiers pardonné d'avoir été aux galères si le préfet avait pu ne pas s'en apercevoir que quand il s'agissait de découvrir un voleur ou de l'arrêter, on devait un peu plus compter sur nous que sur eux. Notre adresse et notre expérience les tuaient dans l'opinion des magistrats. Aussi, lorsqu'il leur fut démontré que tous leurs efforts pour faire prononcer mon renvoi étaient inutiles, changèrent-ils de batterie? Ils ne m'attaquèrent plus directement, mais ils attaquèrent mes agents, et tous les moyens de les rendre odieux à l'autorité leur semblèrent bons. S'était-il commis un vol, soit à l'entrée d'un théâtre, soit à l'intérieur? Vite, il rédigeait un rapport, et les membres de la terrible brigade étaient désignés comme les auteurs présumés. Il en était de même chaque fois que dans Paris il y avait de grands rassemblements. Messieurs les officiers de paix ne laissaient pas échapper une seule de ces occasions de faire le procès à la brigade. Il ne se perdait pas un chat qu'on ne lui reprochât de l'avoir volé. Fatigué à la fin de ces perpétuelles inoccupations, je résolus d'y mettre un terme. Et pour réduire au silence messieurs les officiers de paix, je ne pouvais pas couper les bras à mes agents. Ils en avaient besoin. Mais afin de tout concilier, je leur signifiais qu'à venir, ils eussent à porter constamment des gants de peau de daim. Je leur déclarais que le premier d'entre eux que je rencontrerais dehors sans être ganté serait expulsé immédiatement. Cette mesure déconcerta tout à fait la malveillance. Désormais, il était impossible de reprocher à mes agents de travailler dans la foule. Messieurs les officiers de paix, n'ignorant pas qu'il n'est point de main à droite, si ce n'est complètement nu, restèrent bouche close. Ils savaient le proverbe « Il est si bon matou qui attrape une souris avec des mitaines ». Et ce fut le matin à l'ordre que je fis connaître aux agents l'expédient que j'avais trouvé pour faire cesser toutes les clabouderies auxquelles ils étaient en butte. Messieurs, leur dis-je, on ne veut pas plus croire à votre probité qu'on ne croit à la chasteté des prêtres. Eh bien, pour donner tort aux incrédules, j'ai pensé qu'il n'y avait rien de si naturel dans un cas comme dans l'autre que de paralyser le nombre qui peut être instrument de péché. Chez vous, messieurs, ce sont les mains. Je sais que vous êtes capables d'en faire un mauvais usage. Mais pour éviter tout prétexte de soupçon, j'exige que dorénavant, vous ne sonniez car sortiez qu'avec des dents. Cette précaution, je dois le dire, n'était pas commandée par la conduite de mes agents, puisque aucun des voleurs ou forçats que j'ai employés ne s'est compromis aussi longtemps qu'il a fait partie de la brigade. Quelques-uns sont retombés dans le crime. Mais s'ils sont devenus coupables, ce n'a été qu'après avoir été renvoyés. Vu les antécédents et la position de ces hommes, le pouvoir que j'exerçais sur eux était en quelque sorte arbitraire. Et pour les maintenir dans le devoir, il fallait une volonté de fer et une résolution plus forte encore. Mon ascendant sur eux revenait surtout de ce qu'ils ne m'avaient pas connu avant mon entrée dans la police. Plusieurs m'avaient vu soit à la force, soit à Bicêtre. Je n'avais jamais été que leurs camarades de détention, et je pouvais les mettre au défi de citer une affaire à laquelle j'eusse participé, soit avec d'autres, soit avec eux. Il est à remarquer que la plupart de mes agents étaient des libérés, que j'avais moi-même arrêté à l'époque où ils s'étaient brouillés avec la justice. À l'expiration de leur peine, ils venaient me prier de les enrôler, et lorsque je leur reconnaissais de l'intelligence, je les utilisais pour le service de sûreté. Et une fois admis dans la brigade, ils s'amendaient momentanément, mais sous un seul rapport. Ils ne volaient plus. Quant au reste, ils étaient toujours des êtres perdus de débauche, à donner au vin, aux femmes et surtout au jeu. Plusieurs d'entre eux allaient perdre leurs appointements du mois au lieu de payer le traiteur ou le tailleur qui leur donnait des vêtements. En vain faisais-je en sorte de leur laisser le moins de loisirs possible. Ils en trouvaient toujours assez pour s'entretenir dans de vicieuses habitudes. Obligé de conserver 18 heures par jour à la police, il se dépravait moins que si j'eusse été des sinécuristes. Mais toujours est-il que, de temps à autre, il se permettait certaines incartades, et quand elles étaient légères, ordinairement, je le leur pardonnais. Mais pour les traiter avec moins d'intelligence, il aurait fallu que je ne connusse pas ce vieil adage qui est impossible d'empêcher la rivière de couler. Tant que leur tort n'était que de l'inconduite, je devais me borner à la réprimande. Souvent, les matriques mercuriales que je leur adressais étaient autant de coups d'épée dans l'eau. Mais quelquefois aussi, suivant les caractères, elles produisaient un effet. D'ailleurs, tous les agents, sous les ordres desquels persuadés qu'ils étaient de la part l'objet d'une continuelle surveillance, ils ne se trompaient pas, car j'avais mes mouches et par lesquelles j'étais instruit de tout ce qu'ils faisaient. Énime, de loin comme de près, enfin je le vis, perdait jamais de vue, et toute infraction ou règlement qui traçait leurs obligations était aussitôt réprimée. Ce qui paraîtra surprenant, c'est que dans toutes les circonstances où le service l'exigeait, ces hommes indisciplinables à tant d'égards se pliaient à ma volonté, alors même qu'il y avait du péril à le faire. Nul autre que moi, j'ose le dire, n'a obtenu d'eux un pareil dévouement. En général, j'ai reconnu que parmi les membres composant la brigade, ceux qui prenaient ce qu'on appelle du cœur à l'ouvrage finissaient par devenir des sujets supportables, c'est-à-dire que, sortis d'une ornière pour entrer dans une autre, ils y marchaient sans se déranger de leur chemin. Ceux, au contraire, que rebutait le travail, retombaient dans une irrégularité dont les suites leur étaient toujours funestes. J'ai notamment l'occasion de faire une observation de ce genre sur un nommé Desplanques, qui remplissait dans mon bureau les fonctions de secrétaire. Ce Desplanques était un jeune homme bien élevé, il avait de l'esprit, une rédaction facile, une belle écriture et quelques autres talents qui auraient pu le mettre à même de prendre un rang honorable dans le monde. Malheureusement, il était possédé de la manie du vol et pour comble de disgrâce, il était paresseux au plus haut degré. C'était un voleur qui avait le tempérament des escrocs, ce qui revient à dire qu'il était propre à rien de ce qui nécessite de l'assiduité et de l'énergie. Et comme il n'était pas exact et s'acquittait fort mal de sa besogne, il m'arrivait assez fréquemment de le gronder. « Oh, vous vous plaignez sans cesse de ma négligence, » me répondait-il. « Avec vous, faudrait être esclave. Ma foi, je ne suis pas accoutumé à être tenu. » Desplanques sortait du bagne où il avait passé 6 ans. En admettant dans la brigade, j'avais cru faire une excellente acquisition, mais je ne tardais pas à me convaincre qu'il était incorrigible. Et je me vis contraint de le renvoyer. Sans ressources, alors, il recourut au seul moyen d'existence qui, dans une telle situation, puisse se concilier avec l'amour de l'oisiveté. Un soir, passant dans la rue du Bac, devant la boutique d'un changeur, il brise un carreau, enlève une sébile pleine d'or et se sauve. Au même instant, on entend crier « Au voleur !» et on se met à sa poursuite. À ces mots « Arrêtez, arrêtez !» officieusement répétés de loin en loin, Desplanques redouble de vitesse. Bientôt, il est hors d'atteinte. Mais, au détour d'une rue, Il se jette dans les bras de deux agents, ses anciens camarades, et la rencontre était fatale. Il veut s'échapper, inutiles efforts. Les agents l'entraînent et le conduisent chez le commissaire où le flagrant délit est aussitôt constaté. Desplanques était en état de récidive. On le condamna aux travaux forcés à perpétuité. Il est aujourd'hui à Toulon, où il subit sa peine. Des gens qui veulent juger de tout sans avoir été à même de s'éclairer par les faits ont prétendu que des agents sortis de la caste des voleurs devaient nécessairement entretenir avec eux des intelligences, ou du moins les ménager assez longtemps, qu'ils étaient assez adroits pour ne pas parvenir à se brûler à la chandelle. Je puis attester que les voleurs n'ont pas plus de cruels ennemis que les libérés qui se sont ralliés à la bannière de la police, et que ces derniers, à l'exemple de tous les transfuges, ne déploient jamais plus de zèle que quand il s'agit de servir un ami, c'est-à-dire d'arrêter un ex-camarade. En général, un voleur qui se croit corrigé est sans pitié pour ses anciens confrères. Et plus il aura été intrépide dans son temps, plus il se montrera impeccable à leur égard. Un jour, les nommés San Malcolm et Dorley sont amenés au bureau comme prévenus de vol. En les voyant, Coco Lacour, longtemps leur compagnon, et leur âme intime, est comme transporté d'indignation. Il se lève et apostrophe Dior dans le, en ces termes. La cour. « Eh bien, monsieur le drôle, vous voulez donc pas vous corriger ?»« Drôle. Oh, je vous comprends pas, monsieur Coco, de la morale. » La cour furieux. « Qui appelez-vous Coco ?» Sachez que ce nom n'a pas le mien, je me nomme Lacour. Oui, Lacour, entendez-vous ? Oh mon Dieu, je ne sais que trop où vous êtes Lacour. Et vous n'avez sans doute pas oublié que lorsque nous étions camarades, vous n'oubliez pas d'autre nom que Coco, et tous les amis ne vous ont jamais appelé autrement. Dis donc, Serf, as-tu déjà vu un coco de cette force ? Serf, haussant les épaules. Il n'y a plus d'enfants. Tout le monde s'en mêle. Monsieur Lacour. Lacour. C'est bien. Autre temps, autre mœurs. Casta tridendo mores. Je sais que dans ma jeunesse, j'ai pu avoir des égarements, mais... La cour essaya d'arranger quelques phrases dans lesquelles il fit entrer le mot « honneur ». Mais Dorley, qui n'était pas d'humeur à écouter sa remontrance, lui ferma la bouche en lui rappelant toutes les occasions dans lesquelles ils avaient travaillé ensemble. Maintes fois, la cour a éprouvé des désagréments de ce genre. Lui arrivait-il de reprocher à des voleurs leur ténacité au métier, c'est toujours par des impertinences qu'il était récompensé de ses bonnes intentions. Je mets ce règlement sous les yeux du lecteur afin de lui prouver que, sans me mêler de politique, j'avais assez d'occupations. Préfecture de police, règlement pour la brigade particulière de sûreté. Article 1. La brigade particulière de sûreté se divise en 4 escouades. Chacun des agents commandant une escouade reçoit ses instructions de son chef de brigade et celui-ci reçoit les notes de surveillance et de recherche du chef de la 2e division de la préfecture de police avec lequel il doit se concerter tous les jours et autant de fois qu'il sera nécessaire pour le moment de l'ordre et de la sûreté des personnes et des propriétés. Il lui rendra compte, tous les matins, du résultat de la surveillance exercée la veille, pendant la nuit, par cette brigade, chaque chef d'escouade devant lui faire un rapport particulier. Article 2. Les agents particuliers exerceront une surveillance sévère et active pour prévenir les délits. Ils arrêteront, tant sur la voie publique que dans les cabarets ou autres lieux semblables, les individus évadés des fers et des prisons. Les forces à libérer, qui ne pourront leur justifier d'avoir obtenu la permission de résider à Paris, ceux qui ont été renvoyés de la capitale dans leur foyer pour y rester sous la surveillance de l'autorité locale, conformément au code pénal, et seraient revenus à Paris sans autorisation, ainsi que ceux qu'ils surprendraient en flagrant délit. Ils conduiront ces derniers devant le commissaire de police du quartier, auquel ils feront le rapport pour lui faire connaître le motif de l'arrestation des prévenus. En cas d'absence de ce fonctionnaire public, ils les consigneront au poste le plus voisin et les fouilleront soigneusement devant le commandant du poste, afin qu'ils puissent constater provisoirement la nature des objets trouvés sur eux. Ils demanderont toujours aux délinquants leur demeure pour la vérifier de suite, et en cas de fausse indication de domicile, ils en feront part au commissaire de police qui constatera alors leur vagabondage. Ils lui indiqueront aussi les témoins qui pourraient être entendus et dont ils auront au soin de se procurer les noms et demeures. Article 3. Les agents particuliers de la sûreté ne pourront consigner dans les postes que les individus mentionnés en l'article précédent. Ils ne pourront ensuite les extraire que sur un ordre écrit de leur chef de brigade, auquel ils sont tenus de rendre compte de leur opération en vue d'un ordre supérieur. Article 4. Les agents de police ne pourront s'introduire dans une maison particulière pour arrêter un prévenu de défi sans être muni d'un mandat et sans être accompagné d'un commissaire de police s'il y a perquisition à faire au domicile. Article 5. Les agents de police devront en tout temps marcher isolamment afin de mieux examiner les personnes qui passent sur la voie publique et ils feront de fréquentes stations dans les carrefours les plus passagers. Article 6. La circonspection, la véracité et la discrétion étant des qualités indispensables pour les agents de police, ils ne peuvent y manquer sans être sévèrement punis. Article 7. Il est défendu aux agents de police de diriger leur surveillance, soit de jour, soit de nuit, dans un autre quartier de la ville que celui qui leur a été indiqué par leur chef, à moins d'un élément extraordinaire qui lui est exigé dont ils rendraient compte. Article 8. Il est également défendu aux agents de police d'entrer dans les cabarets et autres biens publics pour s'y attabler et boire avec des femmes publiques ou autres individus susceptibles de les compromettre. Ce qui se prendrait de boissons qui entretiendrait des liaisons secrètes et habituelles avec des voleurs ou des filles publiques, ou vivrait maritalement avec elles, seront punis sévèrement. Article 9. Le jeu étant celui de tous les vices qui conduit le plus promptement l'homme à commettre des bassesses, il est expressément défendu aux agents de police de s'y livrer. Ceux qui seraient trouvés à jouer de l'argent dans un lieu quelconque seront sur le champ suspendus de leurs fonctions. Article 10. Les agents de police sont tenus de rendre compte à leur chef de brigade de l'emploi de leur temps. Article 11. La première contravention aux défenses faites dans les articles précédents, sera puni par une retenue de 2 journées d'appointement. Et en cas de récidive, cette retenue sera doublée, sans préjudice d'une punition plus grave, s'il y a lieu. Chapitre dernier 12. Le chef de la brigade est spécialement chargé de veiller à l'exécution du présent règlement. Cette exécution est aussi particulièrement recommandée aux chefs d'escouade, qui reçoivent ses ordres et doivent lui rendre compte chaque jour de l'exécution de ceux qu'ils auront reçus de lui, comme de ceux qu'ils auront été à portée de donner eux-mêmes aux agents qu'ils dirigent. Fait à la préfecture de police le 1818. Le ministre d'État, préfet de police, signé compte anglaise par son excellence, le secrétaire général de la préfecture, signé Fortin. Sous M. Delaveau, je voulais ajouter quelques articles à cette charte de la brigade, mais le dévot préfet, qui couvrait de ses roulettes ambulantes Paris et les banlieues, refusa de donner sa caution à un règlement dans lequel les jeux étaient mathématisés. J'avais aussi classé parmi les attributions de mes agents le droit de pourchasser sur le quai de l'école, aux Champs-Élysées et dans tous les lieux publics cette foule de misérables de tout rang et de tout âge qui s'abandonne ou se prostitue à un goût honteux qui semblait avoir immigré avec les jésuites. Je sollicitais souvent la répression de ces désordres, mais messieurs Dervlan et Duplessis firent constamment la sourde oreille. Enfin, il me fut impossible de me faire comprendre que la loi qui, pour les attentats aux mœurs, est applicable à messieurs les trop philanthropes, toutes les fois qu'ils ne vont pas chercher les ténèbres intramuros. Je n'ai pas encore pu m'expliquer pourquoi de si hideuses dépravations étaient en quelque sorte privilégiées. Peut-être en était-il une secte qui, pour se détacher du monde, au moins par un côté, et se soustraire à la plus douce des influences, avait juré haine à la plus belle moitié de l'humaine espèce. Peut-être que l'instar de la société des mœurs jésuitiques, je n'en sais rien. Mais en peu d'années, le mal a fait tant de progrès que je conseille à nos dames d'y prendre garde. Si cela continue, adieu l'empire du cotillon. De robes courtes ou longues, les jésuites n'aiment que la leur.